16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, je suis Mathieu Noël. Quelle joie. C'est moi Stéphane, ne soyez pas surpris. Quelle joie de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Historiquement vôtre. Cette émission qui, en l'espace d'un mois tout juste, a déjà, on peut le dire, révolutionné la manière de traiter l'histoire dans les médias. Longtemps, c'est vrai, les journalistes ont pris des pincettes pour aborder cette matière noble dont le prestige universitaire faisait qu'on n'osait pas trop la bousculer, s'en amuser. Et puis un jour, tel un bulldozer fou, Stéphane Bern est arrivé. Il a fait exploser tous les codes, tous les tabous. Et depuis, grâce à lui, chaque après-midi, et selon sa très jolie formule,
on rentre bien profond dans l'intimité de l'histoire.
Bonjour Stéphane Bern. Moi je suis prêt, j'ai ma frontale.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Ce sont vos mots.
C'est vrai qu'on va. Oui, mais c'était pour un autre sujet.
Oui, mais ce sont vos mots néanmoins.
Vous découpez tout, scalpel, après vous resservez des choses. C'est des phrases tronquées.
Oui.
En termes de journaliste, ça s'appelle de l'escroquerie.
Oui, c'est vrai, c'est vrai, mais je suis connu pour ça.
C'est vrai qu'on va parfois un peu loin, mais surtout chaque après-midi, on vous fait découvrir trois figures de l'histoire qui ne se sont jamais croisées et qui pourtant avaient un point commun. Aujourd'hui, Mathieu, si je vous dis Giuseppe Borsalino, Charlie Chaplin et Geneviève de Fontenay. Vous avez compris l'astuce ?
Je crains hélas de l'avoir compris, Stéphane. Ne me dites pas qu'on a validé cette idée de faire une spéciale. Qu'est-ce qu'il y a sous leur grand chapeau ?
Eh ben si. On l'a validé. Bon, il était tard. On avait peut-être un peu trop bu, mais on l'a validé parce que on avait cette chanson d'Annie Cordy,
un
grand ami dans la tête.
Oui, bien sûr. Alors, Stéphane, on va assumer, mais historiquement vôtre, comme son nom l'indique, c'est aussi des rubriques pour vous permettre de comprendre le présent à l'aune de l'histoire et ou de frimer dans les dîners. Vous choisirez votre motivation. Moi, c'est la 2. Pour nous éclairer, comme nos personnages, ils sont trois, un peu moins connus, enfin pour l'instant.
Oui, Mathieu, regardez-moi cette belle brochette.
Appétissante brochette.
Chaque jour, elle lève le voile, souvent transparent, sur les petits secrets des grands de ce monde. Bonjour, Clémentine Portier-Kaltenbach.
Refaites-nous, là, transparent.
C'est votre nuisette qui m'inspire.
Oui, en tout cas, à Dieu ne plaise qui me vit un jour en nuisette. Hein. Bon, alors, parlons d'autre chose. Bonté divine. Il peut arriver, et ça va vous surprendre, hein, les garçons, mais que les messieurs d'un certain âge s'entichent de femmes bien plus jeunes qu'eux.
Alors, c'est étrange.
Alors, j'aurai certainement l'occasion de vous parler de Charles VII, Agnès Sorel, d'Henri IV et Charlotte de Montmorency. Mais aujourd'hui, j'évoque pour vous le fils du grand Mundzuk. Hein ça, non,
le
ça veut dire rien.
Bah,
vous connaissez, oui, bien sûr que si. Le fils du grand Mundzuk, certain Attila.
Attila
a-t-il été assassiné en pleine nuit de noces? Eh bien, retrouvez-moi tout à l'heure et vous en saurez davantage.
Ça va être bien croustillant. Bonjour, David de Castello-Lopez. Vous nous proposez une balade décontractée dans l'histoire qui nous ramène parfois très loin en arrière aux origines d'un objet. Sur quelles traces nous emmenez-vous aujourd'hui?
Les traces du moins noble, mais du plus utile des papier, hein, celui sur lequel tout le monde s'est rué au moment du confinement, le papier toilette, le PQ.
Est-ce que vous êtes rué sur le papier toilette, Stéphane? J'imagine
pas
tellement mal Stéphane Bern débarquer, tu sais, au Lidl. Laissez-moi aller, papier toilette.
Je n'ai pas compris cette... Parce que j'avais pas changé de transit intestinal non plus avec le confinement, vous voyez.
Il pouvait y avoir des problèmes de logistique, c'est ça que les cas fait peur aux gens, je pense, en fait.
Ah oui.
Mais il a déjà un stock de Molton Air très très confortable.
Ouais, ce que j'adore, c'est la transition maintenant entre le papier toilette et
votre chronique gastronomique.
Nous remontons le fil avec nous, Olivier Pouls, notre spécialiste de la bonne bouffe, qui nous raconte l'histoire. L'histoire plat. Qu'y a-t-il au menu aujourd'hui?
Ben quelque chose qui finira, forcément. Mais le petit déjeuner est un peu loin, mais quand arrive l'heure du petit déjeuner, j'ai une irrésistible envie de Bénédicte. Eh bien, je vous livrerai cette recette.
C'est très british pour ça.
D'où elle vient? Ben elle ne vient pas de Grande-Bretagne. Perdu, mon cher Stéphane.
Déjà un point en moins sur le quiz, justement.
Quand j'arrive en nuisette, je fais mon œuvre Bénédicte.
Chacun fait son tableau comme il veut. Enfin, c'était son calvaire quotidien, c'est devenu son rendez-vous préféré depuis qu'elle a commencé à enchaîner les victoires dans le quiz. Que s'est-il passé? Est-il soudain devenu bon? Ou bien un membre de l'équipe lui a-t-il filé son rib en échange des réponses? J'essaierai d'être vigilant au moment de Bern to be alive. Bienvenue dans Historiquement vôtre.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Commençons cette émission, comme le veut la tradition, par la rubrique de ce garçon étrange qui aime la maçonnerie, les sapins parfumés, le béton armé.
Et bien sûr, l'alcool.
Ça va sans dire, David Castello-Lopez.
Alors, quand on est un être humain, être un être humain, hein, comme on l'est tous dans cette pièce, ça a quand même plein d'avantages, et notamment celui d'avoir des mains. Or, avoir des mains, c'est un prérequis absolu au fait d'atteindre certaines parties de son corps, à commencer par celle dont il est question dans cette chronique.
Oh non, non.
Et puisqu'on peut l'atteindre, nous les êtres humains, eh bien, on peut aussi la nettoyer, mais encore faut-il le vouloir. Et il semble que cette volonté soit intervenue assez tôt dans l'histoire, puisque les Romains l'avaient déjà,
oui,
et qu'ils utilisaient pour l'exécuter un outil très sympa qu'ils appelaient le xylospongium, et qui, comme son nom l'indique, était une sorte de bâton avec une éponge au bout. Alors après les Romains, au cours des siècles, les gens ont utilisé plein d'autres choses, hein, comme des bouts de bois, de la mousse, des coquillages, des fourrures
coquillages,
d'animaux.
Oui. Pour un certain doigté quand même,
oui,
parce que
voilà,
coquillages, un drame est vite arrivé.
Bon, il y avait des formations à l'époque. des fourrures d'animaux, même du foin, des écorces de maïs, etc. Mais les premiers qui ont utilisé du papier, hein, eh bien, ce sont évidemment ceux qui ont inventé le papier,
logique,
à savoir les Chinois. Le papier en Chine, ça date au moins du 3e siècle avant Jésus-Christ, mais la première mention de papier utilisé comme papier toilette, elle date de 700 ans plus tard, au 6e siècle. Bon, et là, il faut faire un bond, hein, jusqu'au milieu du 19e siècle, une époque où, dans les villes en tout cas, la plupart des gens utilisaient pour ça des vieux journaux, ou de vieux livres, ou des tracts. Enfin, des bouts de papier finalement qui avaient en commun de ne pas avoir été produits dans le but d'atterrir là où ils atterrissaient. C'était une sorte de seconde vie de l'objet. Vous voyez, un peu comme aujourd'hui quand on cale une table bancale avec un CD de Florent Pagny ou qu'on nettoie ses vitres avec des vieux slips. Ben voilà, et ben c'était la même chose. Mais en 1857, il y a un Américain, encore un, qui s'appelle Joseph Gaietti, et qui a commercialisé ce qui est considéré comme l'ancêtre du papier toilette moderne. Et il en faisait la pub dans les journaux de l'époque en énonçant la chose suivante, je cite... Tout le monde sait que le papier imprimé est comme du poison pour certaines parties délicates de notre corps.
Mais oui, ils auraient pu penser avant quand même.
Oui. Et ce que propose Joseph, c'est un papier toilette fait exprès, donc vendu en feuilles volantes, pré-imbibé avec de l'aloe.
Hein, voilà, l'aloe vera.
L'aloe, voilà. Je pense qu'il y a plusieurs types d'aloe, donc je ne sais pas si c'est lui.
Vous n'avez pas fini de m'enquêter, je vous pose une question. L'aloe,
vous savez ce que c'est que l'aloe ?
Oui, c'est une plante.
C'est un cactus qui est bon pour, bah voilà, pour différents endroits.
Pour la peau, par exemple. Vous savez, ça cicatrise très bien les peaux.
Mais oui, y compris cette... Enfin, voilà, bon.
Y compris cette zone du corps, cette zone du corps, vous ne pouvez pas citer, parce que votre corps vous l'interdit.
Petite chose intéressante quand même, Joseph Gaietti, il faisait imprimer son nom en filigrane sur chacune des feuilles.
Ça, c'est classe.
Voilà. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de freudien à aller chercher de ce côté-là, mais je sais pas tout à fait quoi. Mmh. Bon, quant au papier moderne, hein, qu'on connaît, c'est-à-dire celui qui est en rouleau de feuilles détachables, il a été popularisé par deux frères, hein, Clarence et Irvin Scott, au début des années 1890, et ça a eu beaucoup de succès tout de suite. Pourquoi ? Eh bien, entre autres, parce qu'on entrait dans un nouvel âge des toilettes,
et oui,
les toilettes reliées à la plomberie, dans lesquelles on ne pouvait pas jeter les journaux, hein, parce que ça bouchait les tuyaux, mais en revanche, on pouvait très bien jeter le papier des frères Scott. Voilà. Et depuis, il y a eu quelques innovations, hein. La douceur, la triple épaisseur, le parfum. Mais l'une de celles qui me plaît le plus, c'est le papier recyclé. Parce que moi, je suis comme ça, j'aime bien la nature. Il y a plein de grandes marques qui en font, comme Carrefour ou Renova. Mais il y en a une que j'aime plus que les autres, c'est Poppy. C'est une start-up française de PQ qui fabrique son papier toilette uniquement avec du papier issu des poubelles d'entreprises normandes et bretonnes. Donc, en plus du plaisir de l'hygiène, il y a celui de se dire qu'on fait ses affaires avec d'anciens bilans comptables de PME du Calvados. Et ça me plaît. Voilà.
Mais c'est fou de se dire que ça a été inventé si tard, finalement, le papier toilette. C'est vrai que Victor Hugo, par exemple, il faisait comment ?
Avec du papier journal.
Uniquement avec le Easter Check l'horreur.
Du papier journal, ouais. C'était vraiment la règle, quoi. Et c'est vrai que pour l'avoir essayé, moi, à des moments où il n'y avait rien d'autre...
Et vous savez, on découpait.
Enfin, vous avez jamais vu ça dans... Ah non, vous êtes trop jeune. On découpait des morceaux de papier journal, oui, évidemment.
Mais où, chez vous ? Dans votre résidence secondaire ?
Des gens chez qui je suis allé.
Chez qui vous êtes allé, qui avaient encore ces coutumes-là. Eh bien, écoutez, c'était fort intéressant, David, comme tous les jours.
Merci beaucoup.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement
vôtre. Vous écoutez l'émission qui vous raconte l'histoire sans se la raconter. 2 heures pour découvrir 3 personnages historiques qui n'auraient jamais dû se croiser.
Et pourtant, Stéphane, ils vont se croiser sans même respecter la règle des 1 mètre, car le studio Coluche est trop petit. 3 figures de l'histoire qui ont un point commun. Leur chapeau les a rendus célèbres. Avant Chaplin et Geneviève de Fontenay, oui, on a une notion assez extensive de la célébrité, on commence avec le plus légendaire des chapeliers, Giuseppe Borsalino.
Historiquement vôtre. Le récit.
Il est le point commun entre Humphrey Bogart, Alain Delon et Jean-Paul Belmondo. L'image de ces stars du cinéma est indissociable de celle du Borsalino, le célèbre couvre-chef inventé au 19e siècle par Giuseppe Borsalino, qui lui a donc donné son nom. Comment cet Italien à l'ambition rare va-t-il imposer au monde sa vision de l'élégance avec ce chapeau de feutre à la forme si singulière ? Pourquoi dit-on que le Borsalino a changé la face du cinéma et des films de gangsters ? Ce qui est sûr, c'est que Giuseppe Borsalino, né en 1834 à Pecetto di Valenza, en Italie
donc,
du Nord...
Et qui donc s'essuyait les fesses avec du papier journal et non pas du papier toilette, puisqu'on a vu que ça avait été inventé après.
C'est un garçon rebelle, surtout. Il quitte l'école dès l'âge de 12 ans, devient garçon de course avant d'aller rapidement œuvrer chez un chapelier du coin. Mais très vite, sa province lui paraît trop étroite. À 16 ans, notre Rastignac du chapeau rejoint Paris pour parfaire son apprentissage dans la célèbre maison Bertel. Symbole d'excellence à la française, Alfred Bertel coiffe le tout Paris, les cours royales et l'Élysée dont Louis-Napoléon Bonaparte vient de faire son lieu de résidence. On raconte que Giuseppe Borsalino excelle dans le façonnage des hautes formes qui sont à la mode à l'époque. Le 4 avril 1857, de retour en Italie, Giuseppe a l'ambition de conquérir le monde. Il fonde avec son frère Lazzaro son propre atelier dans la ville d'Alessandria située entre Milan et Gênes. Cela ne nous dit pas comment Borsalino invente le Borsalino. Sur ce point, les versions diffèrent. Certains vantent le génie de Giuseppe qui aurait lui-même donné naissance à la forme si spécifique de ce chapeau. Mais d'autres évoquent plutôt un député italien en colère, Cristiano Lobbia, qui après avoir dénoncé la corruption devant le Parlement, aurait reçu un coup sur son chapeau melon. Et oui, qu'est-ce qu'un Borsalino si ce n'est un chapeau melon avec une fente au milieu ? Toujours est-il qu'à l'atelier des frères Borsalino, les affaires fleurissent dans les années 1860. Les chapeaux, considérés comme de véritables produits de luxe, se vendent de plus en plus, mais la fabrication à la main prend du temps. Et comme vous le savez, cher Mathieu, le temps, c'est de l'argent.
Bien sûr.
Borsalino va alors trouver en Angleterre les machines qui lui manquent pour mécaniser une partie de sa fabrication. Une fabrication qui nécessite 72 étapes, et notamment l'opération dite de soufflage, qui permet d'éliminer, grâce à un système savant de ventilation, l'impureté du poil de lapin. Car oui, le Borsalino est en poil de lapin. Mais face à l'explosion de la demande, les matières premières commencent à manquer. Giuseppe Borsalino décide alors de délaisser 6 mois son atelier pour prendre la direction lointaine de l'Australie. Sa mission ? Partir à la recherche du meilleur poêle possible.
Ça, c'est une belle expédition, Stéphane, ça fait rêver.
À l'époque, tout le monde le prend pour un fou, mais peu importe. Borsalino fouille le pays de fond en comble jusqu'à débusquer les meilleurs élevages de lapins du pays. Et en profite au passage pour monter un réseau de magasins sur place. Son empire s'esquisse doucement. Comment expliquer que Giuseppe Borsalino, ce chapelier fou, se soit donné l'ambition de coiffer le monde entier avec ce feutre à calotte fendue doté d'un bord mou ? Nul ne le sait précisément, mais tout le monde évoque un homme habité qui, paradoxalement, confesse en privé détester porter le chapeau. Il l'empêche de réfléchir, dit-il. Après l'Australie, direction Paris. En 1900, l'exposition universelle qui se tient dans la capitale est un excellent moyen de briller. Sans le savoir, Giuseppe va croiser une étrange invention qui forgera le mythe de son chapeau, le Borsalino.
Qu'est-ce que c'est que cette invention ?
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Alors Stéphane, je vous dis chapeau pour la première partie de votre récit, mais... on attend la suite avec impatience. Vous nous disiez que Borsalino, l'inventeur du célèbre chapeau du même nom, allait faire une rencontre qui allait changer son destin et celui de son objet fétiche.
En 1900, Giuseppe Borsalino vient d'arriver à l'exposition universelle de Paris. Pour lui, c'est l'occasion d'offrir à ses chapeaux l'achèvement d'une reconnaissance internationale. C'est aussi l'ambition des frères Lumière qui présentent cette même année le cinématographe inventé 5 ans plus tôt. Giuseppe Borsalino n'aura malheureusement pas le temps de mesurer l'exceptionnelle complicité que ses chapeaux entretiendront avec le 7e art encore balbutiant. L'inventeur du Borsalino décède en 1900 à l'âge de 65 ans, mais l'entreprise familiale est lancée et les Borsalino s'arrachent bientôt à Hollywood. Dans les années 1920, les films de gangsters sont à la mode, tout comme les gangsters d'ailleurs qui prospèrent dans les grandes villes américaines durant la Prohibition. Bonnie and Clyde, Al Capone, ces personnages effraient autant qu'ils fascinent. Et ils ont la classe avec leur Borsalino made in Italy. 20 ans plus tard, les films noirs succèdent aux films de gangsters. Les ténèbres de la Seconde Guerre mondiale menacent. Et les metteurs en scène vont jouer avec ces chapeaux pour construire leurs personnages douteux. Imaginez, Humphrey Bogart dans Casablanca sans son Borsalino.
Ah, ça marche pas.
C'est réalisé à quel point le cinéma aurait été visuellement différent sans eux. Au point qu'ils vont devenir mythologiques, dans les années 1960, les Borsalino retraversent l'Atlantique, direction l'Europe. Godard, Melville, Fellini, tous utilisent des Borsalino dans leurs films pour faire référence à l'âge d'or d'un cinéma américain qu'ils ont adoré. Fermez les yeux, Mathieu, oui. Et souvenez-vous de la beauté de Jean-Paul Belmondo dans À bout de souffle. Souvenez-vous de l'élégance tragique d'Alain Delon dans Le Samouraï. Ou l'amitié tumultueuse qui lie Delon et Belmondo dans Borsalino, le célèbre long-métrage de Jacques Deray sorti sur les écrans en 1970.
Il y a un autre coup qu'on pourrait faire tous les deux, là, du même genre que les poissons, mais en plus grand.
Explique.
La boucherie.
Ça m'intéresse pas, la boucherie.
Pourquoi ?
J'aime les bouchers.
Laisse-moi au moins t'expliquer, hein ?
Je vais te le faire à pile ou face.
Pile ?
T'as perdu. Tu vois, faut pas jouer avec moi.
Un film de gangster qui porte le nom d'un chapeau. Pourquoi pas ? Puisque le film réunit tous les acteurs qui l'ont déjà porté au cinéma, même si malheureusement Giuseppe Borsalino n'était plus là pour le voir.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Borsalino et de son mythique chapeau, nous sommes en ligne avec Farid Chenoun. Bonjour.
Bonjour.
Oui, bonjour Farid Chenoun. Vous êtes historien de la mode et notamment auteur d'une histoire de la mode masculine, des modes et des hommes, deux siècles d'élégance masculine paru chez Flammarion. Le chapeau, ça représente quoi au fond pour un homme qui le porte ? C'est un accessoire, c'est un vêtement, c'est un trait de sa personnalité ? Est-ce que c'est un signe d'appartenance aussi à une caste, à une élite ?
Alors, c'est un peu tout ça, pour dire les choses de manière peut-être plus simple encore, même si le trait est un peu forcé. Je dirais qu'au fond, tout chapeau masculin descend de la couronne royale. La couronne royale, c'est finalement le chapeau des chapeaux, c'est celui qui incarne la suprématie du pouvoir. Mmh. Et ça permet de fixer l'importance de ce chapeau qui est finalement le couronnement de la verticalité humaine, le fait de se tenir droit. Les animaux qui marchent à quatre pattes n'ont pas de chapeau, à ma connaissance, sauf peut-être chez Alice au Pays des Merveilles.
Oui. Mais quelle place le Borsalino prend justement dans ce repère, ce chapeau, ce couvre-chef ?
Cette généalogie, oui. Alors, en fait, le Borsalino, il incarne quelque chose qui est finalement d'être une étape très importante dans l'évolution du couvre-chef. Grosso modo, pour aller très vite, on dira qu'il y a trois étapes depuis deux siècles. La première étape, c'est le chapeau de forme, très droit, très haut, très dur. Ensuite vient le chapeau melon, qui raccourcit, qui est plus rond, mais qui est toujours très dur. Et finalement, il y a le Borsalino qui va incarner quelque chose de nouveau et qui est l'entrée dans la modernité, qui est l'assouplissement. L'assouplissement, c'est-à-dire que le Borsalino va porter en quelque sorte de nouvelles mœurs, l'assouplissement du vêtement masculin en général, le fait de se libérer des codes et des usages, des rites qui sont trop collémentés, trop fixés, etc. Et le Borsalino, d'ailleurs, a un autre nom au départ. Ça s'appelle un fedora. Un fedora, c'est tout simplement un chapeau de feutre qui est souple, d'ailleurs. De naissance, de manière presque génétique, le Borsalino, il est déjà cassé. C'est sa caractéristique par rapport à ses prédécesseurs. Sa coque, elle est cassée. Pourquoi ? Parce qu'elle aurait peut-être pris un coup dessus. C'est pas très grave. Les étymologies et fantaisies sont toujours intéressantes. Et en fait, c'est un mouvement qui appartient à la modernité, d'une part, par cet assouplissement finalement des vêtements, et le Borsalino en étant. Le feutre, sa caractéristique, c'est qu'il a un grand... Il est, comme vous l'avez signalé, effectivement, il est fendu. Il est même pincé à l'avant. C'est ça qui est génial. Il est pincé, c'est-à-dire qu'il porte sur lui la marque des deux doigts que son propriétaire ont imprimé à force de le mettre et de le remettre. Et ça, c'est tout à fait moderne. C'est-à-dire qu'il épouse finalement les mouvements du corps de celui qui le porte.
Moi, j'ai une question toute simple pour vous. Pourquoi est-ce qu'on porte moins de chapeaux aujourd'hui ? Ou est-ce que c'est plutôt en France qu'on porte moins de chapeaux ou dans le monde entier ? Les hommes, en tout cas, j'ai l'impression, par rapport au 19e siècle, portent beaucoup moins de chapeaux.
On porte moins le chapeau, mais la notion de chapeau elle-même a changé. Donc, qu'est-ce qu'on porte sur la tête ?
C'est ça la question. C'est vrai, on porte des casquettes.
Alors, On porte des casquettes, mais on porte plein d'autres choses. C'est-à-dire que la fonction, elle s'est déplacée sur la tête, elle reste sur la tête, mais ça ne s'appelle plus tout à fait un chapeau. Et puis, de manière récurrente, depuis 20 ou 30 années, on voit des flambées, en fait, des départs de feu, en quelque sorte, hein, de chapeaux, par exemple, ben, le trilby, le petit chapeau qui est porté, par exemple, par les joueurs de jazz, à partir des années 50, qui sont très courtes et sont ramassées sur eux-mêmes, et qui sont pliées aussi, Il y a le bonnet dans les années 2000, dans les rues parisiennes, les jeunes bobos avaient des bonnets, on portait des bonnets.
J'en porte toujours, je vous remercie.
Eh ben non, moi aussi j'en porte, ne t'inquiétez pas. Je parle des initiateurs, de ceux qui ont allumé le feu. etc. Donc, et puis de manière plus générale, c'est tout simplement parce que, et c'est ça, c'est là que le Borsalino est important, c'est que cette espèce de libération du corps, cette espèce d'assouplissement des mœurs, etc., que traduit à sa manière le Borsalino, mais il s'est poursuivi. Et on porte, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des nouvelles manières de porter le chapeau. Par exemple, on voit des hommes qui portent des chapeaux qui sont complètement cabossés. Et ils sont cabossés, c'est eux qui finalement inventent le signe de la cabosse, si je veux dire, des bosses. Et le chapeau a ses bosses, et ses bosses, elles sont propres, c'est une signature de celui qui le porte.
Oui, mais en même temps, c'est
la grande différence.
C'est la grande différence, peut-être. Farid Chiloun, mais le Borsalino reste un accessoire mythique quand même, parce que évidemment il y a les gangsters, il y a le cinéma, et même François Mitterrand, par exemple, l'homme au chapeau.
Non, je vois le lien entre gangsters et François Mitterrand.
Aucun,
je ne sais pas, vous l'assumez, aucun, Stéphane.
Non, il n'y en a aucun. Il y en a aucun, mais c'est vrai qu'on a plein d'images en tête d'hommes célèbres portant ce chapeau. Et même, par exemple, des femmes, je me souviens de Greta Garbo qui portait ce Borsalino.
Oui, absolument. Non, mais le mot garde, c'est ça la force de cette marque, parce que ça, c'est absolument extraordinaire de pouvoir faire de son nom propre un nom commun jusqu'à ce qu'on oublie, et de faire le chapeau, ce chapeau-là, par le cinéma, vous l'avez dit, je vais le dire d'une autre manière, au fond, a permis la création de nouveaux personnages. Ce sont des nouveaux personnages qui sont apparus. Donc, vous parlez de François Mitterrand. François Mitterrand, lui, incarne une sorte de conception plus classique, plus Troisième République, mais avec une pointe de dandysme, du chapeau. Et il a incarné à un moment les derniers feux de la modernité du Borsalino. Alors, effectivement, dès qu'on prononce le mot, c'est sûr qu'il y a une flambée comme ça d'images, de clichés. Quand je dis clichés, c'est pas péjoratif, hein, qui viennent à l'esprit. Et ça, c'est lié au cinéma. Ça, c'est fondamental. Et ça, c'est l'autre point. Il y a d'une part la libération des mœurs, l'assouplissement des vêtements, etc. Et l'autre point, c'est le fait que le cinéma au XXe siècle est devenu finalement le diffuseur numéro un des modes, des codes, et des codes notamment vestimentaires. Parce que dans les années 10, dans les années 20, dans les années 30, avant même les premiers films de gangsters, Borsalino est déjà bien installé dans la place.
Bien sûr.
C'est incroyable. Moi, j'ai fait des petites recherches à cette occasion. J'ai regardé la presse locale un peu partout, et on voit partout les chapeliers qui revendiquent le fait de vendre, eux, le vrai Borsalino.
C'est
quand
mais c'est ça qui est
quand
drôle,
on dit
mais...
le vrai Borsalino, ça veut dire qu'il est copié.
Oui, absolument. En tout cas, vous êtes intarissable et formidable, Farid Chiloun. Merci d'avoir été en ligne avec nous pour nous parler du Borsalino. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Des modes et des hommes, deux siècles d'élégance masculine, et c'est paru aux éditions Flammarion. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Chaque après-midi, trois grands portraits de personnages historiques, mais aussi une incursion dans les coulisses de l'histoire.
Oui, Stéphane, car au-delà des événements historiques stricto sensu, on est nombreux à se demander ce qui s'est passé juste après. Une fois que le rideau est tombé, exemple, qu'a fait le général de Gaulle juste après avoir passé l'appel du 18 juin?
Et ensuite, il a pissé.
Oh oui, une fascinante plongée dans les coulisses de l'histoire. Voilà ce que nous propose tous les jours Clémentine Portier-Kaltenbach.
Ah, Stéphane et Mathieu, rien ne nous sera épargné à ce que je vois. Alors donc, Attila, fils de Mundzuk, barbare mongol qui inspira la terreur à nos aïeux et fut bouté hors de Paris grâce à Sainte-Geneviève. dans nos manuels d'histoire. Vous souvenez-vous, Stéphane, on racontait que là où passait Attila... Je dis Stéphane parce que vous êtes trop jeune, bien sûr. Hein.
Mais alors, j'ai lu des manuels d'histoire aussi, quand même.
Oui, mais moi, j'ai vécu sous Attila.
Vous étiez là.
Non, mais est-ce que vous aviez entendu dire ça? Que là où passait Attila et Séens...
Ça ne repousse pas.
L'herbe ne repousse pas. Oui. Alors, dans la foire au Cancre, célèbre ouvrage de Jean-Charles, voilà ce que cela donnait à peu près. Au 5e siècle, la Gaule fut envahie par les Gaules, les Visigoths et les Saligots. C'était les peuples de la Germanie qui vivaient à l'embouchure de la Vésicule. Puis arrivèrent Attila et Séens qui brûlèrent tout sur leur passage. Attila était le chef des uns pour faire la guerre aux autres. Bon, alors, de façon un peu plus précise, hein, on sait qu'Attila, dans son grand âge, fut saisi par le démon de Midi et qu'il mourut pendant sa nuit de noces avec une jeunette qui aurait pu être sa petite fille. Il avait 60 ans et elle 17. C'est du joli. Qui était-elle?
Oui,
selon
qui
les récits, la fille d'un chef franc ripuaire, ou celle d'un ostrogoth ou d'un alamant, et elle s'appelait peut-être Hildegonde, ou alors c'était une princesse danoise nommée Illidre, ou encore une princesse visigothe d'Aquitaine.
Bon,
alors voilà, dans tous les cas, son nom a été transformé en Ildico par un auteur grec, donc on va s'en tenir là. Alors chez les uns, il y avait une coutume intéressante qui voulait que le vainqueur d'une bataille épouse la fille ou la femme du vaincu. Or, Ildico était la fille d'un chef, ostrogoth, alamant ou ripuaire. Choisissez, messieurs. Et un chef qu'Attila avait tué de ses propres mains, alors que sa fille l'avait supplié de lui laisser la vie sauve. L'impitoyable Attila ordonne sa décapitation ou le tue de sa propre main et il met sa fille dans sa part du butin, un petit peu comme Clovis avec le vase de Soissons, vous voyez. Alors il doit donc l'épouser, hein. Une grande fête est organisée pour la noce, soit dans son palais de Buda, devenu l'actuelle capitale de la Hongrie, Budapest, soit dans un campement quelconque planté non loin de là, au bord du Danube. Après avoir bien festoyé, Attila entraîne sa toute jeune femme dans sa tente. Mais le lendemain matin, quand les serviteurs pénètrent dans la yourte, ils trouvent Ildico prostré au pied du lit et le fléau de Dieu gisant dans une mare de sang.
Oh.
Est-il mort d'une attaque en voulant faire l'honneur de sa couche à sa toute jeune femme? Ildico a-t-elle assassiné son mari éméché pour se venger de celui qui, après avoir tué et dépouillé sa famille, venait d'abuser de sa beauté?
Mais elle est là encore, la
alors,
fille.
Elle prétend qu'il ne l'a pas touchée, qu'il s'est effondré de sommeil et d'ivresse, qu'il a vomi et lui a expressément demandé de n'appeler personne. Il hoquetait, il vomissait du sang à flots. Ainsi périt en 453 Attila, fils du grand Mutsuk, vénéré par son peuple comme un dieu. Alors comme aux yeux des uns.
Oui, et des autres.
Bah, ça l'affichait mal d'apprendre au monde entier que le fléau de Dieu était mort assassiné par une donzelle, ou dans une nuit de beuverie. On convainc que la version officielle de sa mort serait l'apoplexie hémorragique, enfin son équivalent dans la langue 1 au 5e siècle, j'ignore exactement. En tout cas, que ce soit ou pas Ildico qui a accéléré le trépas d'Attila, cette nuit de noces tragique a plutôt été une bonne chose pour nous, puisqu'elle vint mettre un terme à la menace que les uns représentaient pour la civilisation chrétienne. En effet, après Attila, il s'est passé une chose extrêmement originale. La discorde s'installa entre ses héritiers, puis ils n'étaient plus en état de conquérir quoi que ce soit. Alors que conclure de cette triste histoire? Eh ben, on peut conclure avec la Bruyère, tirer cette vérité universelle. C'est une grande difformité de la nature qu'un vieillard amoureux. Et vous savez ce qu'aurait répondu ce vieux macho de Clémenceau en entendant ça? Lui, il aurait dit « Il n'y a pas de vieux messieurs, il n'y a que des femmes maladroites.
» 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Comme chaque après-midi, on se cultive tout en souplesse. Mais vous le savez, il n'est pas de bonne histoire sans un bon nœud dramatique. Or, voici un énorme nœud. L'opposition frontale est souvent sanglante entre Stéphane Bern et celle qui, après 4 défaites d'affilée, commence un peu à perdre son sang-froid. Ne m'a-t-elle pas lancé la dernière fois?
Vous pouvez crever avec vos questions sur le clapet anal du mammouth.
Clémentine, c'est l'heure de jouer à Bern to be alive. Alors, y aura-t-il du clapet anal de mammouth aujourd'hui au programme? Je ne suis pas sûr. Question numéro 1. Stéphane. En plein été 1702, Louis XIV a annulé tous ses rendez-vous pendant plusieurs jours car Filou, son caniche nain préféré, est mort. Vrai ou faux?
Je crois pas que ce soit Louis XIV. Louis XIII l'avait fait.
Filou, c'était qui?
Ah, Filou, c'est le chien. Oui.
Filou, c'est le caniche nain préféré Louis XIII ou de Louis XIV?
Alors oui, il l'a fait.
Réfléchissez. Ouais, oui, mais
fait.
C'est ça.
Oui, il l'a fait.
Alors on écoute.
Vous avez perdu.
Oh non.
Faux. C'était à cause de sa carpe préférée qu'il a annulé tous ses rendez-vous. Il l'avait surnommée la Dorée. Voici un texte d'époque racontant l'épisode. à Marly paraît un courrier que l'on devait expédier, mais l'huissier qui garde la porte lui dit « Retirez-vous d'ici, la carpe favorite est morte, on ne voit personne aujourd'hui. »
Oui, mais alors il a aussi pleuré son chien et sa carpe.
Oui, oui, mais vous aviez connaissance de cette histoire
oui,
de carpes.
Sur les carpes, bien sûr.
Ah, le
bien
roi,
bien sûr. Livre, ça paraît pas évident.
Il y a un livre que je vous recommande d'ailleurs qui s'appelle Le chat de Louis XV. Et non, c'est le titre du livre.
Moi, j'ai pas beaucoup le temps de lire en ce moment.
Le chat de Louis XV et autres animaux célèbres. Ah, et on parle des carpes dans ce livre. On parle des carpes de Louis XIV.
Je vais me précipiter à la FNAC. Je pour vous
en prie. La carpe n'est pas très affectueuse comme animal domestique.
Non, Louis XIV non plus.
Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Dans le journal d'Anne Frank, il est aussi question de sexe. Vrai ou faux ?
Je pense que oui, parce qu'elle est amoureuse et en tout cas, elle exprime ses sentiments, ses incertitudes et son questionnement. Donc je dirais oui.
Vous avez gagné !
Elle a gagné, Stéphane. Oui, c'est un bon point, c'est vrai. Si on compare les écrits originaux et le célèbre journal intime d'Anne Frank, publié et vendu à plus de 30 millions d'exemplaires, il a été allégé par
un peu
son
explosé,
père,
oui,
comme par elle-même, de blagues un peu salaces, de réflexions sur le sexe, sur son propre corps, la prostitution, la masturbation, bref, le vrai journal d'une adolescente. Troisième question pour vous, Stéphane. Le successeur de Kennedy à la présidence des États-Unis avait donné un surnom à son sexe, Pinocchio. Vrai ou faux ?
Qui grandissait quand il mentait.
Quand il mentait, ça. Je vous laisse ensuite en tirer toutes les conséquences.
Je trouverais ça sympathique quand même. Écoutez, si c'est pas vrai, c'est
il
bien trouvé.
Il aurait fait un tas de ça.
Non mais, vous voyez, vu la qualité du quiz, ne cherchez pas des bonnes réponses.
Je suis trop rationnel pour ce quiz. C'est pour ça
rationnel.
Que je perds.
Je trouve que c'est bien trouvé. Si non est vert, ben trovato.
Oui, très bien. Oui. Alors, c'est faux, vous avez critiqué le quiz. Voilà la réponse.
C'est faux. Vous avez perdu.
Vous avez perdu.
Il faudrait créer le jingle. Vous avez encore perdu. Faux. Mais pourquoi la question était posée ? Parce que Lyndon Johnson avait bien donné un surnom à son sexe, mais ce n'était pas Pinocchio. Il était plus vantard que ça, c'était Jumbo. Et il avait en effet un sujet de conversation favori, son sexe, régulièrement. Il montrait Jumbo aux députés dans les toilettes du Congrès en s'exclamant « Vous avez déjà vu quelque chose d'aussi gros ?» Et il y a 1000 autres anecdotes sur ce président qui feront l'objet de futures questions. Dans ce quiz, apparemment, il avait beaucoup de choses à dire.
On a hâte d'y être, Stéphane.
Mais c'est votre parti, si je puis dire.
Non, pas du tout. Mais pas du tout.
Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Attention, si vous répondez juste, c'est gagné. Sur le Titanic, on revient souvent sur le Titanic.
Ça
n'est pas assez des
choses.
Ça
vous obsède. Hein.
Un boulanger a survécu parce qu'il avait bu pas mal d'alcool. Il a ainsi pu rester dans l'eau plus longtemps. Vrai ou faux ?
Alors, c'est tout à fait exact. Et en fait, c'était un Irlandais qui, à ma connaissance, qui a jeté des transats, force transat à l'eau pour se constituer une sorte de radeau avant de sauter. Et il a bu un coup. Or, l'alcool ne réchauffe en rien le corps humain, non. C'est tout le contraire, mais ça donne une sensation euphorisante qui lui a permis de trouver les ressources morales pour se jeter dans une eau à moins 4 degrés.
Bon, alors écoutez, évidemment, c'est une bonne réponse de Clémentine.
Et voilà.
Mais alors, je lis mon explication.
Voilà le travail.
Je lis mon explication pour voir si elle cadre tout à fait avec votre récit. Charles Dugin a aidé beaucoup de femmes et d'enfants à accéder à des canots de sauvetage. Puis avant de se jeter dans la mer, il est retourné dans sa cabine finir sa bouteille de whisky. Résultat, il a pu nager pendant plusieurs heures dans une eau à moins 2 degrés. Les médecins ont été formels à l'époque. C'est l'alcool qui l'a aidé à ne pas tomber en hypothermie. Vous nous dites que ce n'est pas que l'alcool, mais c'est cette idée d'avoir mis des transats dans l'eau.
Je le dis.
Elle
voyez.
Le dit. Et c'est Clémentine.
Tout n'est pas tout à fait
c'est
exact.
C'est Clémentine qui remporte le quiz, vous n'y pouvez rien.
Enfin, était à moins 2 ou moins 4.
Je sors du tunnel de la défaite.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, l'émission qui va vous faire aimer l'histoire, si ce n'est pas déjà le cas. Au pire, si vous n'aimez pas l'histoire, vous pouvez nous écouter juste pour le plaisir d'entendre la chaude et enveloppante voix de Stéphane Bern, qui aurait, selon une légende luxembourgeoise, le même effet sur la libido que le gingembre et le bois bandé.
Ah oui ?
Stéphane, oui, essayez sur vous-même. Stéphane, aujourd'hui, on s'invite sous les chapeaux de ces figures de l'histoire qui emportaient tout le temps.
Et oui, Mathieu, chaque jour un thème et trois personnages. Aujourd'hui, comme nous le chante Annie Cordy, c'est trois...
inoubliable.
Ah oui, on l'a regardé. Trois figures chapeautées. Après Giuseppe Borsellino, je vais vous brosser à présent le portrait de Charlie Chaplin. Quant à vous, vous rendrez hommage à un personnage historique à chapeau, plus proche de nous et que, je sais, qui vous aime beaucoup, vous savez.
Mais c'est réciproque, oui. Mais tout ce que je dis ici n'est que faux fiel pour vous amuser, vous divertir.
Ah bon,
Stéphane, une amie qui vous est chère, j'en suis sûr, oui. L'ex-papesse, oui, des Miss France, dont le franc-parler et le look, on va dire disruptif, ont longtemps fait le miel des émissions télé. Je vous parlerai bien sûr de Geneviève de Fontenay. Au fait, comment elle va, Stéphane? Vous avez des nouvelles?
Elle crache du sang.
Ne traînons pas dans le sommaire, alors dépêchez-vous, Stéphane.
C'est faux, j'ai encore parlé il y a peu de temps. Je me dépêche, bon, vous avez raison. Au programme de cette deuxième heure, également Olivier Pouls, notre spécialiste de la bonne chère, qui troque le chapeau pour la toque. Il va nous raconter la recette de l'œuf bénédict.
On va enfin savoir qui est cette bénédict, Stéphane. Oh, j'ai pas compris, vous pensez qu'elle était anglaise? Alors que pas du tout.
Je crois même que c'est un homme. Vous découvrirez bien assez vite. Il n'y a qu'en Angleterre qu'on voit ça d'ailleurs. Et parce que l'histoire, c'est aussi des mots, j'aurai comme tous les jours le mot de la fin. Vous saurez enfin pourquoi l'argent n'a pas d'odeur.
Ça sent bon tout ça. Très bon.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Si je vous dis comique légendaire, petite taille, petite moustache, air malicieux, évidemment, vous pensez...
Gérard Jugnot.
Non, Stéphane, Jugnot n'a jamais eu de chapeau. Dressez-nous plutôt le portrait de Charlie Chaplin. Et si vous avez écrit le portrait de Jugnot, gardez-le pour la fois où on fera une spéciale chauve.
Historiquement vôtre. Le récit.
Son chapeau a fait de lui l'homme le plus reconnaissable du XXe siècle. Le kid, les temps modernes, le dictateur, Charlie Chaplin a réalisé quelques-uns de ses plus grands chefs-d'œuvre du cinéma. Et pourtant, l'inventeur de Charlot, né en avril 1889 à Londres, a connu l'extrême misère, les scandales et l'exil. Mais pour répondre à la question « qu'est-ce que Charlot a sous son grand chapeau ?», permettez-moi d'abord, mon cher Mathieu, d'évoquer le chapeau lui-même. Car c'est dans son chapeau melon que réside une partie du mystère de Charlie Chaplin.
Il n'avait pas de Borsalino, lui. Il est passé à travers.
Dans l'Angleterre de la fin du XIXe siècle, qui est alors la plus grande puissance industrielle au monde, porter un chapeau melon n'est pas neutre. Accompagné d'une moustache soignée et d'un costume trois pièces, il est le symbole de respectabilité et de mobilité sociale. Les Anglais, qui veulent améliorer leur situation sociale, rêvent donc tous de porter le chapeau melon.
Et les bottes de cuir.
Non, ça c'est...
C'est plus tard.
C'est plus tard. Mais comme je vous le disais, Charlie Chaplin a connu la misère. Son enfance dans les faubourgs de Londres est effroyable. Il a à peine de quoi se vêtir. Ses parents sont acteurs dans le music-hall et Chaplin a faim. Si son père réussit à se faire une petite place, il boit, malheureusement beaucoup trop. Quant à sa mère, elle n'a jamais réussi à percer. Et pour cause, elle est atteinte de troubles psychiatriques aigus. Mais Mathieu... Avoir une enfance terrible vous donne parfois une volonté à nul autre pareil. Même quand j'étais dans un orphelinat, dira plus tard Chaplin lui-même, ou que j'errais dans les rues à la recherche de nourriture, je pensais que j'étais le plus grand acteur du monde. Il me fallait garder cette exubérance qui provient d'une confiance absolue en soi. Sans elle, on court à la défaite, explique-t-il.
Ça ne nous dit toujours pas comment Charlie Chaplin va avoir l'idée du chapeau melon pour Charlot.
Patience, Mathieu, patience. Le personnage de Charlot n'existe pas encore. Notez simplement que Charlie Chaplin a pour l'instant à cœur de s'en sortir. Et le destin va lui donner un coup de pouce. Un soir, alors qu'il n'a que 5 ans et que sa mère chante péniblement pour quelques militaires, Charlie Chaplin va assister à un drame. La voix de sa mère se brise au milieu d'une chanson, si bien qu'elle est contrainte d'interrompre le spectacle. Le jeune Chaplin se retrouve sur scène à sa place. Il s'agit tant bien que mal devant la foule virile et le public apprécie. On raconte même qu'il lui aurait jeté quelques pièces pour l'encourager. Charlie Chaplin ne devient pas riche, mais sa vocation naît à ce moment-là. Bien sûr, le jeune Chaplin va mettre à profit les années qui suivent pour développer ses talents de mime et son sens du rythme. Charlie est doué. Si bien que dans les années 1910, son impresario l'envoie tourner aux États-Unis. Et c'est un triomphe. Ses numéros ont tant de succès qu'il éclipse les autres comédiens de la troupe. Charlie Chaplin n'a que 24 ans lorsque le studio Keystone lui propose de transposer son univers comique au cinéma. Chaplin accepte, mais non sans déception. Il en a assez des gags vulgaires et il faut dire qu'à l'époque, le cinéma est un divertissement grossier. Les classes moyennes et supérieures refusent de s'y rendre à cause des mauvaises odeurs qui stagnent dans les salles obscures. Et pourtant... Charlie Chaplin est loin d'imaginer qu'un simple chapeau melon va bientôt lui permettre d'inventer le personnage de cinéma le plus célèbre au monde.
Ça fait 3 heures qu'on essaie de voir le lien avec le chapeau melon, et là vous allez vous arrêter maintenant, Stéphane ? Vraiment ?
Il faut que je marque une pause, c'est nécessaire. Une pause technique.
Europe 1, 16h, 18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Historiquement vôtre, spécial, qu'est-ce qu'il y a donc sous leur grand chapeau ? Continue, Stéphane, vous nous racontez le destin étonnant de Charlie Chaplin, qui a fini d'en baver des ronds de chapeau, si j'ose dire, et découvre le cinéma et ses grands studios.
Oui, un matin de 1914, lorsque Charlie Chaplin arrive dans les studios de la Keystone à Los Angeles, son destin s'apprête à basculer. Le producteur a convoqué Charlie pour le faire jouer dans un court-métrage muet. Le cinéma parlant n'existe pas encore. Comment devait-il s'habiller ? Avec quel maquillage ? Quels accessoires ? Il n'en a pas la moindre idée. Alors, il essaye les habits pendus dans l'atelier de costumes. Un pantalon large, des grosses chaussures, une veste étriquée, une canne et un petit chapeau melon. Lorsqu'il le pose sur son crâne, stupeur. Tout apparaît contradictoire, mais son reflet l'inspire. Vagabond, gentleman à chapeau, poète, clown, le personnage est tout cela à la fois et résonne avec sa propre histoire. Charlot, son alter ego, vient de naître. Et le succès est immédiat, international et massif. Rien qu'en 1914, Charlie Chaplin joue dans 35 films. Charlot fait rire, il réconforte, il suscite l'admiration, Charlot est partout. Figurines, assiettes, concours de sosie, Charlie Chaplin devient la première superstar de l'histoire. Celui qui a eu une enfance misérable prend sa revanche. Il devient son propre producteur, il réalise désormais ses films, gère ses affaires d'une main de maître. Charlie Chaplin s'enrichit en incarnant un homme du peuple au chapeau chic, mais trop étroit.
Mais vous n'allez quand même pas me dire qu'il prend le melon, rassurez-moi.
Il veut surtout, Mathieu, ne dépendre de personne. Charlie Chaplin est un génie, un expérimentateur qui a besoin d'argent pour inventer son propre cinéma, mélange de poésie, d'humour et d'émotion. Malheureusement, dans les années 40, après avoir réalisé Le Dictateur, son dernier chef-d'œuvre, sa popularité décline doucement. Chaplin vieillit et les procès s'accumulent. Il faut dire qu'il est connu pour aimer les très jeunes femmes. En 1943, il se marie pour la 4e fois. Elle a 18 ans, lui 54, lorsqu'une autre actrice de 23 ans se déclare enceinte de lui. La science dira le contraire, mais la presse se déchaîne. On l'accuse de turpitude morale. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, l'administration américaine en profite pour lui reprocher ses sympathies communistes. Cette fois, c'en est trop. Charlie Chaplin décide de s'installer en Suisse, où il finira ses jours à l'âge de 88 ans, alors père de 11 enfants. Et pendant ce temps, à cette époque, le cinéma parlant a définitivement remplacé le cinéma muet. Le monde a changé et le chapeau melon a disparu.
Europe 1, historiquement vôtre.
Stéphane Bern a beau très bien connaître l'œuvre de Charlie Chaplin, il aurait même assisté à l'avant-première des Temps modernes en 1936. On a préféré, par sécurité, compléter son excellent récit par l'éclairage d'une vraie spécialiste. Bonjour, Kate Guillon-Barre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
C'est un plaisir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice du bureau Chaplin qui gère les archives et les droits de Chaplin, ainsi que co-commissaire de l'exposition Chaplin et le dictateur, histoire d'un petit poisson dans un océan infesté de requins, qui se tient actuellement à l'Institut pour la photographie de Lille jusqu'au 15 novembre prochain. Alors, je le disais, le chapeau melon, la canne, son pantalon trop large, la veste étriquée, tout ça c'est Chaplin. J'ai raconté cette belle histoire qui, lorsqu'il essaye sa tenue pour la première fois dans les studios de la Keystone à Los Angeles. Est-ce avéré ou est-ce qu'il y a une part de légende ? Est-ce que ce choix est-il aussi spontané qu'on a bien voulu le dire, ou est-ce qu'il avait en amont un peu imaginé sa tenue ?
Parce que ça paraît trop beau pour être vrai.
Imaginer en amont, je ne pense pas. Mais sa tenue n'était pas aussi bizarre et excentrique qu'elle peut nous paraître maintenant. Parce que les gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens n'avaient qu'une seule veste et un seul pantalon. Et qu'ils soient trop larges, trop petits, on les mettait quand même. Donc je pense que ce qui le faisait sortir de la masse dans son costume, c'est la canne, le chapeau et les grosses chaussures. Chaplin a su, dans un moment qui pourrait rétrospectivement être appelé une épiphanie, combiner le tout. Donc oui, moi je dirais plutôt spontané.
Ce qui paraît fou, c'est l'ascension. Moi je ne savais pas qu'il venait d'un milieu si déshérité, si pauvre. comment il a pu devenir la première superstar, comme vous disiez, Stéphane. Ça paraît tellement insensé, la trajectoire. Surtout que j'imagine que dans l'industrie du cinéma, il y avait quand même des rivalités. Comment il a fait pour se faire sa place si vite? C'est son talent pur, brut, qui a joué? Ou c'est qu'il était aussi très, très malin? Est-ce qu'il était aussi fort pour se vendre lui-même?
Moi, je pense qu'il était très, très fort, mais il a bien su se faire entourer. Son frère Sidney, son frère Sidney l'a beaucoup aidé à ses débuts au cinéma. Après un an, Charlie l'a fait venir de l'Angleterre et il l'a beaucoup protégé des problèmes administratifs pour lui laisser le temps de créer, en fait. Et Sidney, d'ailleurs, a essayé de lancer toute une gamme de produits dérivés. Sidney essayait de bien gérer l'image et Charlie ne s'y intéressait pas tellement. Et puis quand Chaplin a construit ses propres studios, il a fait venir le manager de sa troupe au Music Hall de l'époque de Carnot, quand il était au Music Hall, Alf Reeves, pour lui donner toute la gestion des choses quotidiennes. Donc il s'entourait de gens qu'il connaissait depuis très longtemps, en qui il avait confiance.
Alors c'est vrai, Kate, le choix du chapeau melon n'était sans doute pas anodin, parce que dans l'Angleterre de la fin du 19e siècle, je l'ai dit, le chapeau melon, c'est le symbole de l'establishment, de la respectabilité. C'était aussi le cas pour Chaplin, où c'est à la fois le paradoxe du vagabond argenté, désargenté. C'était une façon peut-être aussi pour lui d'accéder à cette haute société qu'il admirait, ou au contraire, pour s'en moquer.
On voit dans les photos, quand il a eu un peu d'argent, que les photos, quand il est en tenue de ville, il porte des fois un vrai chapeau melon. Donc je pense qu'il était tout à fait conscient du statut que ça apportait aux gens. En effet, symbole de respectabilité. Mais le personnage de Charlot adore son chapeau et sa canne. Il retourne toujours les chercher quand il les oublie. Il les nettoie avec sa manche, il les caresse. Des fois, on a vraiment l'impression qu'il caresse son chapeau pour enlever la poussière. C'est quelque chose dont il est presque amoureux. Et donc, ces deux accessoires le rendent à ses yeux plus respectable, même si les autres ne le voient pas ainsi.
Sur les tournages, il était comment, Chaplin? Moi, j'ai lu 2-3 trucs sur lui. Apparemment, il était très contrôle fric, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il voulait tout diriger. Il était extrêmement perfectionniste. Ça devait être quelqu'un d'extrêmement dur.
Je pense qu'il aurait aimé jouer tous les rôles s'il avait pu, parce qu'en effet, tout était dans sa tête. Il avait une vision du film tel qu'il la voulait. Et c'est une des raisons pour laquelle, pendant la période du cinéma muet, en tout cas, il embauchait toujours des actrices, des comédiennes qui n'avaient pas d'expérience, justement pour pouvoir les façonner un peu comme la pâte à modeler. Mais des fois, son perfectionnisme allait un peu trop loin. Par exemple, pour Virginia Cherryl dans Les Lumières de la Ville, la première fois que la jeune fille aveugle et Charlot se rencontrent, il a fait retourner plus de 400 fois la même scène. Donc pour les comédiens, ce n'était pas évident.
C'est pas une sinécure, non. Alors vous êtes, Kate, vous êtes co-commissaire de l'exposition de Chaplin et le dictateur, histoire d'un petit poisson dans un océan infesté de requins, qui se tient à Lille à l'occasion des 80 ans du dictateur. Le dictateur, c'est le premier film parlant de Chaplin. Il faut saluer d'ailleurs le courage qu'il a eu, parce que c'est une satire féroce et politique du régime nazi d'Hitler, réalisée malgré toutes les pressions, celles du gouvernement allemand.
Du gouvernement allemand, des Américains, des Anglais, aussi des producteurs et distributeurs à Hollywood qui ne voulaient absolument pas perdre le marché allemand qui était assez lucratif pour eux. Donc ils faisaient tout pour ne pas déranger le système. Et dans Le Dictateur, nous retrouvons Charlot et son chapeau melon dans le rôle du barbier. Mais nous avons trouvé une note dans les archives écrite à la main de Chaplin qui précise que ce film, c'est la première fois où l'histoire du film est plus importante que le personnage de Charlot. Et l'exposition explore la préparation et le tournage du film avec des photos inédites prises sur le plateau par l'assistant réalisateur Dan James, que nous avons acheté très récemment et que personne n'a vu.
Ah oui, formidable.
Est-ce qu'on sait s'il avait d'autres projets qu'il n'a pas pu mener à bien, Charlie Chaplin, scénarios qu'on aurait trouvés ou en avez?
Oui, nous en avons dans les archives, nous en avons beaucoup. Surtout, son dernier projet, The Freak, c'était l'histoire d'une fille qui je ne sais plus si elle est née ou si elle lui a poussé, elle a eu des ailes. Et c'était vraiment, la production était en cours à la fin des années 60, mais ça a été abandonné.
Kate, moi j'ai recommandé à mon ami Mathieu d'aller voir la maison de Vevey. Parce que
une bonne chose.
C'est formidable.
C'est formidable.
Avec notamment une reconstitution, c'est Grévin, je crois, qui a participé à à tous ces personnages.
Il faut que j'aille, c'est à côté de chez moi,
mais
en Suisse.
Oui, je sais,
près de Lausanne.
Un jour, vous allez mettre vos valises, vous arrêtez.
Très bien. Vous voulez que je vous dépose une valise en Suisse quand j'y vais aussi? Parce que je sais que. Très bien.
Moi, j'ai pas besoin, j'ai pas de valise.
Évidemment.
À part sous les yeux. Merci beaucoup, Kate et Guillaume Var.
Merci, c'est un plaisir.
Ici, Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Qu'est-ce qu'il y a sous leur grand chapeau? C'est notre thématique aujourd'hui dans Historiquement vôtre. Chaque après-midi, vous savez, c'est trois personnages historiques, dont un plus contemporain, parfois même encore vivant.
Oui, alors même si entre l'enregistrement et la diffusion de cette émission, il va falloir croiser les doigts, faut pas se mentir.
Salut mon cher Laurent.
Non Geneviève, je vous expliquais, c'est pas Laurent Ruquier, c'est Stéphane Bern. On est sur Europe 1. Europe 1. Oui, aujourd'hui, dans 99% vrai, mon portrait tout en délicatesse du seul personnage vivant de notre émission, je vous parle de la seule personne au monde dont le nom évoque encore plus un chapeau que Borsalino et qui laissera dans l'histoire une trace bien plus conséquente et pérenne que votre Charlie Chaplin.
Avec qui elle aurait d'ailleurs couché.
Non, je vous en prie Stéphane, un peu de respect pour Geneviève de Fontenay.
Ah non.
La dame au chapeau qui restera jamais associée au concours de Miss France. Personnage intrigant, apprêté comme une marquise grand siècle, gouailleuse comme une charcutière de Ménilmontant, à la fois hyper tradie et totalement rock'n'roll, comme si l'âme de Patti Smith s'était retrouvée piégée dans les fringues de Nadine de Rothschild. Alors, je vous le dis d'emblée Stéphane, n'espérez pas que je vous révèle ce qu'il y a sous le chapeau de Geneviève de Fontenay, n'y voyez nulle paresse de ma part, c'est simplement que c'est techniquement impossible. En effet, à force de le porter sans jamais le retirer, Geneviève de Fontenay est la seule personne à s'être fossilisée de son vivant avec son chapeau. C'est-à-dire que par un principe d'appel d'air, combiné à l'effet ventouse du couvre-chef, ce dernier est désormais indissociable de sa tête. Si par malheur, vous cherchiez à le dévisser...
Une demi-heure après, les morts.
Voilà Stéphane, mais c'est ce qui se passerait, Donc ne prenons pas de risques. C'est donc seulement au sens figuré que nous allons tenter de savoir ce qui se cache sous le grand chapeau de Geneviève. Geneviève Suzanne Marie-Thérèse Mulman voit le jour il y a 88 ans. On a tellement de mal à l'imaginer enfant. Enfance qu'elle passe en Lorraine. Elle commence dans l'hôtellerie à Strasbourg avant de devenir esthéticienne. Choix cocasse pour quelqu'un qui sera plus tard assez mal à l'aise avec la nudité. C'est justement après une prestation package prestige, gommage de l'entrecuisse, maillot brésilien, sillon interfessier qu'elle voit rouge et décide de quitter l'univers trop sulfureux de l'esthétique pour celui, bien plus sain, vous en conviendrez, du mannequinat. Élue Miss Élégance en 1957, Geneviève tape alors dans l'œil d'un certain Louis-Pierre-Joseph Poirot. Avec un nom pareil, Geneviève se dit « soit il est détective privé, soit il est pédophile dans les Vosges ». Une chance sur deux, coup de bol, Louis-Pierre-Joseph Poirot est en fait délégué général du comité Miss France. Son pseudo, c'est De Fontenay, c'était son nom de résistant pendant l'occupation. Rassurée, Geneviève l'épouse, il aura une influence décisive dans sa vie. Alors on sait peu de choses de son caractère, seulement quelques indices semés ça et là par Geneviève, comme par exemple cette phrase, je cite « pour moi, les parties molles de l'homme, c'est le cerveau ». Laissant penser que le Poirot ne faisait pas insulte à son flamboyant patronyme. Ce qui est sûr en revanche, c'est que Louis-Pierre-Joseph, c'est lui qui fera de Geneviève la dame au chapeau. Comment ? Eh bien en déclarant un jour avec beaucoup de tact « sa tête est trop petite pour son corps, elle mériterait d'investir dans un couvre-chef ». Voilà comment tout a démarré. Un homme charmant. Après son décès, une autre que Geneviève aurait choisi de faire cramer les statues du comité Miss France, de prendre la maille et de partir se taper des gigolos bien montés au Sénégal, Geneviève prend l'étonnante décision inverse, elle reprend les rênes du comité Miss France avec son fils Xavier, avec une obsession désormais que plus un seul téton ne dépasse.
Je règne du 10, oui chef, même le dimanche, oui,
c'est
chef.
La hantise de Geneviève. Faut resituer, on est avant Caroline Fourest, avant MeToo, tout ça. Le problème majeur du concours des Miss France, c'est pas que des jeunes filles défilent comme du bétail devant Alain Delon et Jean-Pierre Foucault pendant que devant leur poste de télé, des hommes en rut bavent en s'exclamant.
Ah, c'est pas mal.
Non, la seule angoisse de Geneviève, c'est qu'une de ses Miss ait pu montrer un bout de nibard dans un magazine. En 2008, scandale. Valérie Beck pose dans une série de photos jugées un peu trop suggestives. Geneviève lui demande de rendre sa couronne. Pour des raisons éditorial et purement journalistique, je suis parti à la recherche de ces photos. Photos bien innocentes, hélas, sur lesquelles cette brave Valérie ne fait que lécher un litre de lait concentré sur un muret de jardin. Alors certes, en termes de gestes barrières, c'est une catastrophe, autant lécher la rampe d'escalateur du Leclerc à Saint-Médard-en-Jailles. Mais question nudité, c'est la déception, on ne voit rien. Mais pour Geneviève, rien, c'est déjà trop. Alors elle cogite, elle fait des nœuds au cerveau. Certaines personnes se font des nœuds au cerveau en essayant de comprendre le japonais ou en butant sur le théorème de Fermat. Geneviève, elle déclare « Une chose est sûre, je n'ai jamais compris le string. Une ficelle dans les fesses, ce n'est même pas hygiénique. » C'est vrai que porter le même chapeau pendant 60 ans, ça c'est clean.
Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur épouvantable?
On appelle ça la macération folliculaire, Stéphane. N'essayez jamais d'enlever son chapeau.
Oh non.
En 2002, lassé de scruter des vidéos du site Jackie Michel afin d'y surprendre l'entrecuisse d'une Miss Poitou qui aurait accepté une incursion dans le Gonzo pour payer ses études de marketing, Geneviève vend la société Miss France à Andémol et crée en parallèle son propre concours de beauté Miss National Prestige. Sans aucune amertume, c'est ça qui est beau puisqu'elle déclare « Celles qui voudront écarter les cuisses iront chez Andémol, les autres viendront bon chez moi. C'est ça aussi qui fait le charme de Geneviève. Hein. Oui, de par sa tenue désuète avec son chapeau et ses flonflons, elle est à peu près aussi décalée qu'un sapin de Noël en plastique qui traîne encore mi-mars à l'entrée dans Lidl. Mais son franc-parler séduit. C'est finalement son côté rock qui plaît aux Français, à moi le premier. Politiquement, par exemple, elle est même plus rock. Alors là, elle est carrément punk. En moins de 20 ans, elle est passée de fan d'Arlette Laguiller à soutien de François Hollande avant de lancer une initiative commune avec Florian Philippot, puis de dire que finalement, elle l'aimait pas, de soutenir Macron, de le bombarder de textos, puis ensuite, comme il lui répondait pas, de demander sa démission. En 2018, Geneviève pense enfin avoir trouvé sa famille politique en rejoignant les Gilets jaunes. Rapprochement qui bute hélas sur la question des ronds-points. « Je n'admets pas qu'il bloque comme ça les ronds-points, c'est complètement stupide », estimera Geneviève, écœurée par l'inconstance de ses contemporains. Désormais retirée du business des Miss, la dame au chapeau coule une retraite paisible où elle s'adonne à son hobby favori, bitcher. Florilège des derniers titres d'articles sur lesquels on tombe quand on tape son nom sur Google. Geneviève de Fontenay, choquée, s'oppose à l'élection d'une Miss transsexuelle. Geneviève de Fontenay s'insurge contre le costume de poilu de Miss Lorraine. Geneviève sur Emmanuel Macron, elle ne peut plus le voir. Geneviève épingle François Hollande, c'est une limace. Enfin, Geneviève dégomme Sylvie Tellier, elle a un joint qui a pété. Ce franc-parler, en un mot, cette élégance typiquement française, c'est ça qu'on aime chez Geneviève. Je crois d'ailleurs qu'avant de clore le sujet, elle a un petit message pour vous, Stéphane.
Et surtout, arrêtez de vous astiquer. Ça va pas arranger votre fêlure au poignet.
À bon entendeur, Stéphane. Vous savez que vous la connaissiez bien, mais à ce point-là, évidemment, vous connaissez très bien. Hein.
Bon, en tout cas, c'était... Je sais pas à combien de pourcents c'était vrai.
C'était à 30% vrai. Oh, non, non, l'histoire est vraie.
L'histoire est vraie.
Les moqueries, mais les méchancetés sont en plus. Voilà, on adore Geneviève.
Vous avez beaucoup à expier. Très bien.
Je le ferai. Je vais me flageller.
16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
L'émission qui prend en charge vos neurones, vos zygomatiques et même vers 6h moins le quart, vos papilles, avec cet indécrottable hédoniste qui nous vaut moult courriers du Saint-Siège, Stéphane, horrifié par ses propos blasphématoires.
Deux boules de différentes tailles, parce que la religieuse, après, il faut la monter.
Mais... Il parlait de la pâtisserie, bien sûr, mais le pape a zappé sur Europe 1 au mauvais moment, celui où il était question de monter la religieuse. Bonjour, Olivier Pouls.
Cet après-midi, vous savez qu'il nous parle des œufs bénédicts, Olivier Pouls.
Qui viennent d'Angleterre, d'après vous?
Non. C'est pas ce que j'ai dit. Ah, si. J'ai dit qu'on les, mangeait surtout le matin en Angleterre.
Oui, c'est vrai que c'est un des emblèmes, soit des brunchs, ou alors appelle les petits déjeuners à l'anglaise.
À l'anglaise, voilà.
Moi, j'adore ça. Faux. Moi, je suis un fou des œufs bénédicts. Mais c'est un peu long à faire. Je vais vous donner la recette dans un instant. Mais d'où viennent ces œufs bénédicts, si ce n'est d'Angleterre? Des États-Unis, encore un
des
peu plus loin.
Des États-Unis.
Mon cher Stéphane, eh oui, dans un hôtel qui s'appelle le Waldorf, qui existe toujours.
À New York.
Il y avait un client dans les années 1890, qui était un ancien homme d'affaires, qui avait travaillé à Wall Street, qui avait fait fortune, et son grand truc, c'était d'écumer les palaces, un peu comme vous, mon cher Mathieu.
Je vous en prie.
Et il aimait aller prendre ses petits déjeuners dans les endroits les plus chics de New York. Et un matin de 1892, alors qu'il avait apparemment bien festoyé la veille, il n'était pas tout à fait les idées au clair, il arrive au Waldorf, il appelle le maître d'hôtel, il demande qu'on lui donne quelque chose de vraiment consistant pour affronter la journée. Donc il donne ses instructions, il dit « faites-moi des toasts ». Je veux des œufs pochés, je veux du bacon, et puis vous m'enroberez tout ça d'une bonne sauce hollandaise, ça devrait tenir au corps. Et le chef s'est exécuté et on lui a apporté ces œufs qui ont directement suscité l'intérêt de tous les autres clients de l'hôtel qui
Qu'est-ce
en ont
que
voulu
c'est, je veux
eux
le même.
Aussi. Et tout le monde a trouvé ça délicieux, à tel point que le cuisinier était obligé de les laisser à la carte et que, pas bagel, il les a appelés œufs bénédicts parce que le fameux client s'appelait Lemuel Bénédict.
Ah, c'est son nom de famille, c'est pas
son
une
nom
Bénédicte.
De famille.
Lemuel, comment vous l'écrivez?
Lemuel.
Il est en train de vérifier entre elles si vous dites pas de conneries. C'est la confiance reine dans cette émission.
Non, mais vous avez quoi?
Il est en train comme de googliser.
Comme non, pas du tout, mais comme j'apprends des choses dans cette émission, je note son nom pour m'en souvenir.
C'est beau, Stéphane.
Ah oui, c'est tout.
Vous voulez aussi la recette? Vous pouvez la noter, mon cher Stéphane.
Alors, je vais noter.
Bon, alors, il faut... À l'origine, c'est du pain, c'est des toasts. Maintenant, on a plutôt tendance à mettre des muffins. Vous pouvez choisir.
C'est bon aussi avec les muffins.
Ensuite, il faut faire des œufs pochés. Les œufs pochés,
c'est
ça paraît un petit peu technique. C'est plus facile qu'il n'y paraît. Ah. Il vous faut 1 litre d'eau. Mm-hmm. Vous allez porter ébullition. Vous allez mettre un petit peu de vinaigre dedans. C'est très important parce que le vinaigre va permettre la coagulation homogène du blanc. Vous cassez vos œufs dans des petits ramequins individuels avec un fouet... Vous faites un tourbillon dans la casserole et vous versez l'œuf au milieu. Et avec l'aide du tourbillon, le blanc va s'enrouler autour du jaune, va se mettre à coaguler. 3 minutes de cuisson, vous avez vos œufs pochés, c'est fantastique. Une petite tranche de bacon par-dessus, et puis la sauce hollandaise.
C'est quoi la sauce hollandaise ?
Sauce hollandaise qui est une sauce qui était inventée sous Louis XIV durant la guerre de Hollande, d'où son nom.
Ah, c'est pas une sauce hollandaise, c'est une sauce bien à nous.
Qui est tout à fait française, et alors c'est très simple, c'est une base de jaune d'œuf, de beurre et de jus de citron. C'est une sauce émulsionnée. Donc vous allez prendre vos jaunes d'œufs, vous allez utiliser une casserole au bain-marie parce qu'il ne faut surtout pas que ça cuise trop fort, sinon les jaunes coagulent. Vous allez petit à petit incorporer des morceaux de beurre bien froid dans vos jaunes d'œufs. Dès que la texture prend, vous rajoutez un demi-jus de citron, un peu de sel, un peu de poivre, et vous venez recouvrir vos œufs bénédicts.
C'est quoi un demi-jus de citron, Olivier Pouls ?
Vous prenez un citron,
un
puis vous coupez en deux.
Oui, mais pas un demi-jus de citron.
Vous pouvez prendre aussi un jus de citron entier. Voilà.
Oui. Ah, on peut prendre le zeste aussi.
Question de quantité, voyez-vous.
Question de, tout est question de proportion. Merci
beaucoup.
Mais si
vous voulez en mettre un peu plus, ne vous gênez pas.
Moi, je ne me gênerai pas.
En tout cas, ça a l'air délicieux.
Oui.
Et puis alors, Lemuel. Moi, j'ai appris Monsieur Lemuel Bénédicte.
Déjà, on a appris que Lemuel était un prénom. Qui est quand même accepté par la société.
Moi, j'aurais dit plutôt Bénédicte Lemuel.
Bah oui, moi aussi.
Prénom qui est un peu disparu, d'ailleurs. Je ne l'ai pas croisé récemment.
C'est dommage. Oui. C'est dommage.
Et vous savez qu'en Autriche, Bénédicte, c'est Benoît, en fait. On utilise ce prénom pour les garçons. Merci beaucoup, Olivier. On peut retrouver toutes vos recettes sur le site d'Europe1.fr. Et on va vous retrouver ici même, en chair et en os.
Demain.
Un peu en gras aussi. Ah, pardon. C'est pas moi.
Il a fauté. Oui, il a pris mon lancement. Je voulais voir s'il allait y aller jusqu'au bout.
Je veux savoir
en gras aussi.
Ça.
Et bien, vous y allez avec Olivier Pouls.
C'était votre phrase.
Chaque jour à ce stade de l'émission, vous savez d'où viennent les recettes, mais d'où viennent les mots et les expressions. Ça, vous n'en avez encore aucune idée. Okay. Heureusement, Dieu a créé Stéphane Bern.
Oh,
franchement,
non.
Quand je vois Stéphane, j'ai envie de dire adieu comme Patrick Bruel.
Merci pour ça.
Merci pour Stéphane, Dieu.
Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
C'est mon moment préféré de l'émission et c'est normal, je suis fan de tout ce que fait Stéphane Bern. Je suis sa carrière de très près, comme il a pu le constater hier hors antenne. Mais Lisieux, c'est à côté de chez moi, je réalise. Je suis jamais allé.
T'es jamais allé au sanctuaire ?
Attends, à Lisieux, il y a quoi ?
T'as pas vu le Secret d'Histoire sur Sainte-Thérèse ?
C'est France 2, c'est plus France 2 maintenant, le Secret d'Histoire.
Non, c'est France 3.
Non, vraiment, je ne manque pas une seule de ses émissions et de ses chroniques, surtout celle dans notre émission. Voici le mot de la fin de Stéphane Bern.
Mathieu, vous m'en faisiez aimablement la confidence hors antenne il y a encore quelques minutes. L'argent n'a pas d'odeur. Au lieu de vous faire la morale, ce qui, rapport à votre degré de cupidité, serait peine perdue, je vais plutôt chercher à vous cultiver. Au fond, d'où vient cette expression ? Et je vous propose de partir pour Rome après le suicide de Néron dont nous avons parlé ici même.
Vous adorez Néron.
Oui. Les caisses de l'Empire sont au plus bas. Rendez-vous compte, il manque 4 milliards de sesterces pour faire fonctionner l'État. D'autant que, on l'a dit ici même, Néron avait fait, soi-disant, brûler la ville de Rome. Il faut donc la reconstruire. L'empereur Vespasien ne néglige alors aucune source de revenus. Il met toute son énergie pour inventer de nouveaux impôts. Il décide alors de taxer l'urine tous les 4 ans par chef de famille en fonction du nombre de personnes.
En fonction du nombre de personnes.
De personnes et qui sont présentes sous un même toit.
Alors, taxer l'urine, ça veut dire faire payer l'accès des toilettes ou récupérer l'urine à proprement parler, Stéphane ? Éclairez-moi.
Imaginez-vous que c'est les deux à la fois. Non seulement les commodités n'étaient plus gratuites, mais le liquide était également récupéré pour les teinturiers qui s'en servaient pour dégraisser les peaux, mais aussi pour préparer les tissus avant de les teindre et blanchir le linge grâce à l'ammoniaque qu'il y a dans vos urines.
Oui, dans les vôtres aussi, Stéphane. N'essayez pas. Faites partie du genre humain aussi, Stéphane.
Je le sais, j'assume ma part d'humanité. Titus, le fils de Vespasien, se moquait régulièrement de son père et de cet impôt qui pouvait sembler ridicule. Ce dernier, un jour, a plongé sa main pour prendre des pièces d'or et de bronze en s'exclamant « Pecunia non olet ». L'argent n'a pas d'odeur.
Ah, même l'argent sale qu'il faut blanchir ?
Ça sent le vécu. Vespasien resta surtout célèbre à travers l'histoire pour cette façon originale de remplir les caisses. Mais aussi, voyez-vous, mon cher Mathieu, grâce aux Parisiens. Parce que savez-vous comment on a baptisé les toilettes publiques au 19e siècle ?
Je viens de comprendre.
Les Vespasiennes.
Je ne savais pas que ça venait de là.
Oui, exactement, parce qu'on urinait, alors bon... C'est des endroits qui ont disparu. Maintenant, il y a les Sanizettes, c'est moins poétique.
C'est moins poétique. C'était joli, mais... Vespasienne.
Oui, oui, oui.
C'était très beau. Merci beaucoup, Stéphane. Vous savez quoi ? Vous êtes un génie.
Exactement.
Pas hyper modeste, mais un génie.
Vous me flattez, mon bon Blaise.
J'en ai grand peur, Stéphane, et j'aimerais pouvoir ralentir le temps, mais Historiquement Vôtre touche à sa fin. Encore un merveilleux voyage dans l'histoire avec vous, Stéphane, à la rencontre de ces stars qui aimaient les chapeaux aujourd'hui. Borsalino, Chaplin, Geneviève de Fontenay. Qui vous inspire le plus ?
Au fond, Borsalino. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Vous savez, les Italiens qui triomphent dans le monde entier comme ça.
Et on a appris surtout que Borsalino était célèbre avant que ses chapeaux soient portés par des stars de cinéma. Moi, je pensais que c'était là que la marque était née. Non, il était déjà partout dans le monde avant.
Et à Paris, Paris 1900.
Paris 1900. La Goulue. La Goulue, toute votre jeunesse. Enfin, ça fera l'objet d'une autre émission, la jeunesse de Stéphane.
16h-18h sur Europe 1. Historiquement Vôtre.
Cette fois, Mathieu, c'est une certitude. Historiquement Vôtre se termine pour aujourd'hui.
Oui Stéphane, une fois de plus on a vécu 2 heures enchanteresses à la lisière de l'humour et du savoir. Votre rire un peu flippant, mais communicatif, mais un peu flippant, entra longtemps ma mémoire. Vous me rappelez un âne que j'ai bien connu.
Je vous retourne le compliment, quoique pour d'autres raisons.
Oui mais arrêtons là l'autosatisfaction Stéphane, pour donner plutôt à nos auditeurs une idée de ce qui les attend demain dans Historiquement Vôtre.
Demain dès 16h, on réunit 3 nouveaux personnages de l'histoire qui ont un point commun. Celui d'être écolo avant l'heure. 3 verts qu'on ne soupçonnait pas. Le rouge Karl Marx, le génie Louis de Funès
et Hulk, le vert le plus célèbre du monde et le plus fort aussi.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.